l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Manéléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes mercredi 20 novembre 2024, il est 6h15, l'heure du journal sur Radio Manéléo. Au sommaire, la zone de santé de Nyangezi, dans les territoires de Walungwa, a enregistré plus de 2000 cas de monkeypox, dont 3 décès. Une confirmation du médecin chef des zones de santé de Nyangezi qui précise que la maladie continue à circuler, d'où la nécessité de respecter les gestes barrières pour se protéger. En sport, les léopards de la RDC ont perdu hier mardi 19 novembre devant les Walia de l'Éthiopie sur le score d'un but à 2 au stade des martyrs de Kinshasa. Notez que malgré cette défaite, la RDC termine en tête du groupe H des éliminatoires de la CAN 2025 avec 12 unités. Voilà tout pour les sommaires. Hélène Boudjirir et Semono, Anissé à Konkwa sur la mise en onde. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Direction Nord Kivu, où au moins 9 cas de violences sexuelles ont été enregistrés en une nuit dans les sites déplacés de guerre des Baraka dans les quartiers Mugunga. C'était lors d'une incursion des hommes armés dans ces camps la nuit du dimanche au lundi 18 novembre. À ces cas de viols s'ajoutent aussi plus de 120 ménages qui ont été cambriolés par ces hommes porteurs d'armes. Paulin Ganzé nous en dit plus dans cet élément depuis Goma.
L'information a été livrée à la presse ce mardi 19 novembre 2024 par Judith Rushoti, présidente de ces camps situés au quartier Mugunga, dans la commune de Karisimbi, à l'ouest du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Notre source indique que les faits ont été commis par des hommes armés qui ont réussi à poser ces actes inhumains sur ces femmes. Elle note qu'aucune intervention des forces de l'ordre et de sécurité n'a été initiée pour secourir les victimes. La présidente du site des déplacés Baraka plaide pour le déploiement des éléments de la police en vue de sécuriser ces sites.
Les sites de Baraka ont enregistré 120 ménages qui ont été menacés par les bandits. Les cas sont augmentés et devenus 9 cas. Elle vient d'enregistrer 6 et moi aussi 3, donc ça devient 9. Et elles ont été violées par les bandits pendant les soirs. Vraiment, ils avaient des stratégies à utiliser pour que les gens ne puissent pas savoir l'identification de ces gens. On avait peur, on disait que ce sont des M23 qui viennent d'être dans les sites. Vraiment, on a demandé le gouvernement de nous donner la police. Mais une chose est drôle, pendant le crépitement des balles, on a manqué vraiment l'intervention de la police.
Situé dans le quartier Mugunga, le site des déplacés Baraka a d'abord été victime d'un vent violent qui, deux jours avant, a ravagé les ménages des paisibles déplacés. Goma, Paulin Aganze, Radio Mandeléo.
C'est vous, Paulin Aganze, je vais revenir au sud que vous pour parler des habitants du groupement des Karungu Nyangezi en territoire des Walungu qui sont appelés à respecter les gestes barrières pour se protéger contre la variole des singes dite monkeypox. L'appel est du médecin chef des zones de santé de Nyangezi, le docteur Olivier Kabarati Amani, dans un entretien avec Radio Maïdéléo. Alain Kabika nous en dit plus.
Ces derniers expliquent que sa zone de santé a déjà notifié plus de 2000 cas, avec au passage 3 décès. Notre source précise que la maladie continue à circuler, d'où l'appel à la population de respecter scrupuleusement les mesures barrières. Ceci passe également par l'orientation des malades présentant des symptômes de cette maladie vers des structures sanitaires pour leur prise en charge. La vaccination et la prise en charge des malades atteints du monkeypox sont gratuites, insiste le médecin chef des zones de santé de Nyangezi. Le docteur Olivier Kabarati Yamani explique.
Pour le moment, notre liste linéaire est à plus de 2000 cas. On demande beaucoup à la population de renforcer aussi la surveillance avec les responsables de nos structures sanitaires, puisque la maladie continue à circuler au sein de la population. Ce n'est qu'en faisant ça que nous allons briser la chaîne de contamination. La vaccination en mode routine continue. Tous les cas contacts et actifs sont en train de les vacciner au niveau des centres de santé Mounia et on continue à les recevoir en attendant le deuxième passage de la vaccination.
La prise en charge des MPOX est gratuite et les malades hospitalisés bénéficient aussi de la restauration pour essayer un peu de casser cette chaîne de transmission.
Kabarati déplore néanmoins les comportements de certains malades qui préfèrent se diriger chez les tradis praticiens et dans des chambres de prière, espérant obtenir la guérison. Pour lui, l'hôpital demeure le seul endroit où cette maladie est soignée. Signalons que la zone de santé de Nyangezi compte 2 centres de prise en charge des malades de monkeypox. L'un est situé à l'hôpital Saint-Joseph de Kamanyola et l'autre à l'hôpital général de Mounia à Nyangezi, conclut le docteur Olivier Kabarati Amani.
Et comme nous parlons santé, sachez que les infirmiers titulaires de différentes aires de santé de la zone de santé de Nyantende sont en formation depuis lundi 18 novembre sur la prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant. Cette formation de 6 jours a pour but d'outiller ces prestataires afin de réduire la mortalité des enfants de 0 à 5 ans qui sont vulnérables à des différentes maladies. La formation est organisée par l'organisation Assistance aux enfants abandonnés et orphelins à en sigle, sous la facilitation de la Division provinciale de la santé des PS, Mapendolinda.
Le formateur du jour, Dr. Michel Maneno, du bureau d'appui technique à la DPS, précise que beaucoup d'enfants meurent à cause de la mauvaise prise en charge de certaines maladies incriminées dont la mortalité est élevée chez les enfants de moins de 5 ans. Parmi ces maladies, il cite les diarrhées à répétition, la rougeole, le paludisme, la malnutrition, les infections respiratoires aiguës, etc. Notre source demande aux agents de santé de bien évaluer et de traiter correctement ces maladies en donnant des conseils appropriés aux parents pour les éviter. Pour sa part, le médecin chef des zones de santé de Nyantende se réjouit de cette opportunité car cela va aider à sauver des vies. Docteur Jean-Paul Karumba en parle.
Nous voudrions que le prestataire soit assidu durant tous les 6 jours qui vont passer ici en formation pour qu'il bénéficie le maximum possible et par rapport aux connaissances sur la prise en charge des enfants. Donc, comme vous le savez très bien, je crois plus de 40% des malades que nous prenons en charge dans nos formations sanitaires, ce sont les enfants de moins de 5 ans. Les enfants sont très vulnérables et le PSIME, ça nous apprend, ce sont des algorithmes qui nous apprennent comment prendre en charge des maladies des enfants. Nous voudrions assez que tous les prestataires soient concentrés et qu'ils bénéficient au maximum les connaissances au bénéfice de la population.
Pour plus d'impact, Dr Jean-Paul Karumba appelle les parents à amener les enfants malades dans des structures sanitaires pour une bonne prise en charge et éviter de les garder à la maison en essayant de les soigner seuls.
Merci Mapendolinda. Il est 6h22 dans les studios de Radio Maindeleo. La suite de cette édition, c'est juste après cette courte pause.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Maindeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Nous allons changer de chapitre pour parler de membres de la société civile, des confessions religieuses, des associations des jeunes et femmes du territoire de Mwenga qui recommandent au gouvernement d'organiser l'exploitation des minéraux mettant fin à l'exploitation illicite. Cette recommandation est issue d'une journée de réflexion organisée en début de week-end dernier à Mwenga Centre par le bureau territorial de la société civile Force Vive. L'activité a été organisée sous les thèmes de l'investissement des capitaux étrangers chinois et autres dans le secteur minier industriel en territoire de Mwenga, chefferie de Luinja, Burini, Luindi, Basile et Wamuzimu, n'est-ce pas Expedi Kialou?
Il ressort des échanges que la chefferie de Wamuzimu est celle qui connaît une intense activité illégale des sociétés d'exploitation de l'or sur les 18 chefferies du Sud Kivu. Une cartographie de la présence des sociétés à capitaux chinois a été dressée. Une exploite sur l'axe Ngando dans la chefferie de Wamuzimu et une autre sur l'axe Kala dans le groupement Dianga dans la chefferie de Luindi indiquent les participants. En revanche, une société se retrouve dans le groupement de Babousse en chefferie de Wamuzimu. Une société se retrouve à Kitutu en route pour Lugusho, ajoute-t-il. Les activités de ces sociétés détruisent l'environnement et la route nationale numéro 2 renchérisse les participants à cette rencontre qui en appelle à une responsabilité de l'État. Écoutons à ce sujet Lungele Itebo, président de l'Océan Civil, bureau de coordination de Mwenga.
Parmi les recommandations issues de cette séance que l'État congolais prenne sa responsabilité à l'application de la loi et règlement minier pour mettre fin à l'exploitation illicite en territoire de Moins. Le rapport de cette séance sera soumis à nos autorités provinciales, nationales. Il est informé à la population du territoire de Mwenga que bientôt des actions citoyennes seront organisées.
Il s'est de préciser que 71 personnes ont participé à cette rencontre. Outre la société civile, le chef d'antenne des mines, le chef de bureau du SAIMAP, le représentant du chef de la chefferie de Wamuzimu ont pris part à cette activité. Les recommandations pertinentes seront couchées dans un document qui sera soumis au gouverneur des provinces incessamment, concluent nos sources.
Et connaître les nombres exacts des agents de la fonction publique de l'État, éliminer les fictifs qui sont payés au détriment de ceux qui travaillent, c'est l'objectif de l'identification biométrique qui a débuté hier mardi 19 novembre 2024 dans la province du Sud Kivu. Cette identification biométrique est conduite par une équipe venue de Kinshasa et dont le lancement a eu lieu le mardi 19 novembre dans la salle auditorium de la femme, en présence des chefs de bureau et chefs de division des différents services de l'État, Mapendu Linda.
À en croire les chefs de cette délégation, Isidore Kitenge, à travers cette identification biométrique des agents de l'État, le ministère de la fonction publique veut maîtriser les effectifs et la masse salariale. Cela va permettre à la fonction publique de dénicher ceux-là qui utilisent des numéros matricules frauduleux, des matricules des personnes déjà décédées, ceux-là qui ont des matricules et qui perçoivent les salaires mais qui ne sont pas productifs.
Et donc la maîtrise des effectifs va en corollaire avec la maîtrise de la masse salariale. Ceux qui sont concernés sont notamment les agents publics de l'État, au départ ceux qui sont déjà inscrits dans les fichiers frappe lorsqu'il y avait des remontées des données depuis 2009, et donc ceux qui avaient rempli des fiches passées, un processus. À ces processus, la fenêtre, l'ouverture du fichier frappe est ouverte. Et donc ce qui fait que chaque agent qui est nouvellement recruté, même celui qui n'avait pas rempli la fiche à l'époque, il doit remplir sa fiche, ses données doivent être remontées à Kinshasa, et sa fiche code QR doit revenir.
De son côté, le président de la corporation des chefs des divisions, Arma Bandekezabanda, demande aux agents de l'État concernés par cette identification d'apprêter tous les documents exigés, entre autres une lettre des commissions d'affectation, la pièce d'identité originale, les diplômes et d'autres nécessaires.
Et donc pour nous, c'est une occasion même de lancer un message à tous les agents de commencer à se préparer et de préparer les dossiers, les documents tels qu'on l'a été demandé. Tout celui-là qui n'avait pas encore fait le contrôle, c'est l'occasion pour lui.
Pour sa part, le chef des divisions provinciales de la fonction publique, Ahana Tonga Patrick, invite tous les agents de la fonction publique à saisir cette opportunité qui ne va durer que 21 jours.
Évidemment, la présence physique de chaque agent est également obligatoire.
Signalons que cette équipe sera aussi déployée dans les territoires pour la même cause. À Bukavu, le processus d'identification s'effectue à l'auditorium de la femme en commune d'Ibanda.
Et au lendemain de son entretien avec le directeur général du Fonds national d'entretien routier, FONER, le gouverneur du Sud Kivu a été reçu hier mardi 19 novembre par les ministres d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guissaro. Ils ont échangé sur la problématique des infrastructures routières de la province du Sud Kivu. Le gouverneur Jean-Jacques Porossi Sadiki a passé en revue la situation calamiteuse des routes dans sa province avant de solliciter l'implication du ministre pour le parachèvement de tous les chantiers en cours au Sud Kivu. À cette occasion, le gouverneur du Sud Kivu a obtenu l'assurance du ministre Alexis Guissaro que ces routes seront modernisées pour faciliter la circulation des personnes et leurs biens. Parlons maintenant de la femme. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux lance le programme She Leads au Sud Kivu, un programme qui vise à promouvoir une démocratie inclusive et résiliente en renforçant le leadership de la femme ainsi que sa participation électorale et politique en RDC. Ricky Ombeni nous en parle.
Lors du lancement solennel de ce programme mardi 19 novembre, il a été signifié que ce dernier va également donner aux femmes des compétences nécessaires pour jouer un rôle clé dans la vie politique grâce aux formations qui seront organisées en leur faveur. Pour ce programme lancé dans 6 provinces pour une durée de 6 mois au Sud Kivu, 20 femmes sont bénéficiaires. Pour Evelyne Moulemangabo, responsable du bureau Genre et Inclusion à la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, grâce à ce programme, ces femmes seront capables de bâtir les réseaux pour renforcer leur confiance en elles et assumer le rôle de leadership pour faire progresser la participation des femmes à la vie politique. Evelyne Moulemangabo.
She Leads, c'est une activité dans un grand projet qui s'appelle Ndeke. Nous sommes en train d'encadrer les femmes pour essayer de renforcer leur rôle qu'elles jouent, pour les rendre un peu plus efficaces. Il y a les femmes influentes, les femmes de politique, élues, non élues, femmes candidates, une femme dynamique, une femme leader ici au Sud Kivu, pour essayer d'améliorer le quota ou la prise en compte de la femme dans la gestion du pays. Ces programmes visent essentiellement une amélioration de conditions de travail de la femme en travaillant sur la femme elle-même, amener la communauté à accepter qu'une femme aussi peut.
Les bénéficiaires de ces programmes remercient la Fondation internationale pour les systèmes électoraux pour les choix portés sur elles. Elles promettent de tout mettre en œuvre pour que les acquis de ces projets soient bénéfiques à toutes les femmes du Sud Kivu à travers des séances de restitution. Les provinces bénéficiaires de ces programmes sont le Sud Kivu, le Nord Kivu, la Tchopo ainsi que les trois Kasaï.
Pendant ce temps, les habitants de Bukavu sont appelés à bien entretenir les toilettes pour en faire un lieu d'aisance comme année son appellation et aux autorités urbaines d'assurer la bonne gestion des déchets en ville selon les normes hygiéniques et environnementales pour éviter les maladies qui peuvent y provenir. Ce message a été lancé hier mardi 19 novembre 2024 par l'organisation féminine dénommée Cordon des femmes congolaises pour l'équilibre des ménages genre en action à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes célébrée le 19 novembre de l'année. Au cours de cette cérémonie, la coordinatrice nationale de cette organisation, Astrid Mujinga, a sensibilisé les élèves et les enseignants du complexe scolarisé Kofan, ainsi que les membres de son organisation sur l'importance de la propreté et le bon usage des toilettes à l'école comme à la maison. À la même occasion, elle a lancé les messages aux autorités provinciales à prendre des mesures pour punir tous ceux qui ne respectent pas les normes d'hygiène sous toutes ses formes. On l'écoute.
On peut plus facilement éduquer les jeunes gens, les enfants, que les adultes qui ont déjà un certain comportement, certaines habitudes. C'est pas toujours évident qu'ils puissent changer leur comportement. Et nous savons très bien que les toilettes sont souvent négligées dans des écoles. Il y a même des écoles qui n'ont pas vraiment de toilettes. Pour qu'ils puissent savoir quand même que l'assainissement des toilettes, c'est un sujet et sur lequel donc, on doit quand même donner une certaine priorité parce que notre santé en dépend. Et nous lançons un message pas seulement à la population, mais aussi aux décideurs. Les manques d'assainissement, l'insalubrité, le rejet de déchets partout, le fait d'ouvrir des fosses septiques quand il pleut, ça occasionne toutes sortes de maladies.
Signalons que cette organisation a célébré cette journée sous le thème « Les toilettes, espace de paix ». Ces lieux centraux dans la vie de chacun devraient être un espace sûr avec l'appui financier de l'organisation Enverdu. Et trois commissions ont été mises en place pour une étude approfondie des questions de développement soulevées lors de la réunion organisée par les députés provinciaux honoraires Pierre Tchoubaka Karatwe en faveur de la notabilité de Bougoré tenue le dimanche 15 novembre 2024 à Kavumu dans le territoire de Kabare. Il s'agit de la commission chargée des questions sécuritaires de la place, celle chargée des questions liées au développement du milieu et celle chargée de la situation politique. Après cette étude, une autre réunion sera tenue le dimanche prochain pour amendement et la prise de décision sur les actions concrètes à mener pour trouver des solutions aux difficultés soulevées. Pierre Tchoubaka Karatwe est dans cet élément.
Et ce dimanche, on a essayé de discuter sur trois points. Le premier point, c'était la situation sécuritaire du milieu. Le deuxième, c'était relatif au développement du milieu. Et le troisième point concernait la situation politique du milieu. Après avoir débattu les trois points, la plénière a décidé mieux de constituer trois commissions. Une qui va se charger de la situation sécuritaire, l'autre sur le développement du milieu et l'autre sur la situation politique. Et donc, on a suspendu notre réunion qui doit reprendre ce dimanche à partir de 13h au même lieu pour que les commissions puissent nous présenter les rapports et éventuellement leur adoption par la plénière.
Cette activité qui s'est tenue à Kavumu Centre a réuni plus de 500 personnes de différentes couches de la population. Avant de parler sport à 6h33, je vais vous prendre au maire Modé Kereza pour parler du rapprochement des recruteurs, des demandeurs de l'emploi et faire un pont entre eux pour les opportunités d'embauche. C'est l'objectif de la première édition du Salon de l'emploi organisé par Kisho International dans la province du Sud Kivu. C'était le mardi 19 novembre 2024 au cours d'une activité irrelative tenue dans la salle Elisabeth en commune d'Ibanda.
Au cours de cette activité, les demandeurs d'emploi ont eu l'occasion de discuter avec les recruteurs qui sont revenus sur les problèmes de sélection lors des recrutements des employeurs. Pour la représentante pays du Kisho International RDC, Richine Masengo, cette activité consistait à avoir un espace de discussion entre ces deux catégories pour l'embauche d'un grand nombre de jeunes dans les différentes entreprises du pays. Richine Masengo.
Ici, l'objectif c'était de faire un pont entre le recruteur et les chercheurs, les demandeurs d'emploi, de sorte qu'il y ait un échange, un espace de discussion, de comprendre les enjeux liés aux besoins de l'emploi d'un élève, mais aussi de pouvoir mettre aux jeunes de rencontrer les employés, de rapprocher les employeurs ou le recruteur au plus proche des jeunes, de sorte que ça soit beaucoup plus facile pour eux.
De son côté, le maire adjoint de Bukavu, Augustin Ruchogeza, encourage Kisho International pour l'encadrement des jeunes dans la ville de Bukavu. Il invite les responsables des entreprises à recruter plus les jeunes pour qu'ils demeurent exemplaires dans l'exercice de leur travail. Augustin Ruchogeza.
C'est bientôt une année, d'ailleurs une année au complet que Kisho International encadre les jeunes dans la ville de Bukavu. Nous sommes très contents parce que c'est au même endroit qu'on a été l'année passée et nous pensons qu'avec les entreprises partenaires à Kisho International, ils seront en train de traiter sur la question de l'employabilité des jeunes, les jeunes professionnels et les jeunes qui viennent de sortir fraîchement de l'école.
À cette occasion, des demandeurs d'emploi ont déposé leur CV dans différentes entreprises qui ont pris part à ces salons de l'emploi. Précisons que ce salon de l'emploi tenu dans la ville de Bukavu est à sa première édition et a été organisé par Kisho International dans le cadre du projet Talent Pluriel et mis en œuvre par Sesomo.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, les Léopards de la RDC ont perdu hier mardi 19 novembre devant les Wallias de l'Éthiopie sur les scores d'un but à 2 au stade des Martyrs de Kinshasa. Cette rencontre comptait pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Malgré cette défaite, la RDC termine en tête du groupe H des éliminatoires de la CAN 2025 avec 12 unités. Elle est suivie de la Tanzanie qui totalise 10 points, synonyme de qualification. L'Éthiopie dernière du groupe avait 4 points à jouer juste pour son honneur. Entre-temps, l'équipe de football version féminine du TP Englebert Mazembe est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions de la CAF. Hier mardi 19 novembre à Casablanca au Maroc, elles se sont logiquement qualifiées pour la finale de la compétition en renversant l'ambitieuse et accrocheuse formation d'Edo Queen du Nigeria sur le score de 3 buts à 1. Le titre est plus proche que jamais pour les féminines des Mazembe. Ce samedi 23 novembre, en finale, elles vont croiser l'AS Phare qui a écarté Massar 2 buts à 1 dans l'autre demi-finale. Il faudra se sublimer pour soulever les trophées et faire honneur à la RDC. Entre-temps, l'OC Bukavu Dawa reçoit New Jack de Kinshasa ce mercredi 20 novembre à Bukavu. Ce match est de la Ligue 1 Helico Cash. Il démarre à partir de 15h. Cette confrontation oppose deux équipes rangées dans les zones extrêmes du classement. L'OC Bukavu Dawa est dans les top 3 avec 11 points en 7 matchs joués. Les Corbeaux sont 3e derrière Maniema 1er avec 14 points et Dauphin Noir 2nd avec 13 points. En revanche, New Jack est 12e et avant-dernier au classement avec 5 points. Bukavu Dawa joue ses matchs après plus d'une semaine de pause des corrections des erreurs constatées lors de la dernière prestation des Corbeaux. Il s'est précisé que le tout dernier match de Bukavu Dawa s'est soldé sur une victoire des Corbeaux sur les scores d'un but à 0 devant les FC Étoiles du Kivu.
La revue de presse Radio Maïndélu capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
À 6h38, nous allons parler de la revue de presse, les conséquences de la déforestation sur la ville de Bukavu et ses environs, les atouts majeurs dont jouit la ville d'Uvira et ses différents défis face à son développement et les réactions enregistrées dans différents camps politiques de la société civile également suite au projet de révision de la constitution initié par les chefs de l'État font partie des sujets commentés par les journaux parus à Bukavu et à Kinshasa. Alain Kabika nous met en musique la revue de presse.
Le Sud-Kivu, qui connaît une déforestation sans précédent, aurait déjà perdu 642 539 hectares de forêt, annonce le journal Kivu Safari en sa page 22. En conséquence directe de cette déforestation, poursuit le journal, un total de 381 380 375 tonnes de dioxyde de carbone ont été émis dans l'atmosphère, avec une moyenne annuelle de 190 660 019 tonnes de CO2, renseigne une étude citée par le journal. Pour ce journal, l'année 2024 affiche une canicule jamais vécue à Bukavu, une ville qui jouissait d'un climat doux de type méditerranéen. C'est en effet l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures moyennes mondiales dépassant les niveaux pré-industriels de plus d'un degré Celsius. Suite à cette situation, des érosions menacent la ville de Bukavu, un SOS qui s'ajoute à bien d'autres alertes, s'inquiète le journal Kivu Safari. Depuis des décennies, certains quartiers de Bukavu et ses environs sont ravagés par des érosions qui n'épargnent aucun coin de la ville lorsqu'il pleut. C'est comme devant l'hôtel Métropole à La Botte, à Nyawera, à la place Muzihiro ou vers la fondation Panzi. Ici, déplore le journal Kivu Safari, des véhicules flottent sur les eaux lorsqu'il pleut. Cette situation macabre a poussé le ministre provincial de l'Environnement Didier Kabi à prendre des mesures sévères contre tous les destructeurs du parc national de Kahuzi-Biega, renchérit le journal. Dans un autre sujet, le journal Kivu Safari parle de la ville d'Uvira et annonce que cette dernière est considérée comme un prolongement de la ville de Bujumbura de par leur proximité. À cause de sa situation géographique, Uvira est souvent une ville victime des guerres qui commence par là et ayant tout détruit tant les infrastructures que les tissus socio-économiques et qu'il ne reste plus rien particulièrement dans les petits centres et villages qui entourent Uvira à l'est de la République démocratique du Congo. Connue pour sa beauté naturelle, Uvira offre aux visiteurs de nombreuses activités touristiques. D'autres sujets comme les projets de révision de la constitution qui oppose les Congolais, en quoi le nouveau système LMD est-il avantageux aux étudiants congolais, les foisonnements des maisons de passage dans la ville de Bukavu et tant d'autres, sont commentés dans ce 343e numéro du journal Kivu Safari paraissant à Bukavu. Jean-Claude Katende a lancé un appel à ses compatriotes de l'Est de la RDC, annonce le journal Les Potentiels. Ces derniers exhortent les citoyens à rejeter les projets de révision constitutionnelle initiés par le président Félix Tshisekedi, qu'il qualifie de manipulation dangereuse visant à prolonger son mandat. Dans son allocution, Katende a dénoncé l'utilisation fallacieuse de l'article 217 de la Constitution par le président qui, selon lui, cherche à instiller la peur parmi les populations de l'Est en prétendant qu'un abandon territorial est inévitable, ajoute le journal. Pour Martin Fayoulou, à travers ses récentes déclarations à partir du Haut-Katanga, Tshisekedi joue avec le feu et vient de déclarer la guerre au peuple congolais, écrit MediaCongo.net. Contre vents et marées, fait remarquer Actualité.cd, Fayoulou reste sans crainte et prédit l'échec de ses projets. L'ancien candidat président de la République rassure la population qu'il sera devant elle pour dire non au changement de l'actuelle loi fondamentale, ajoute les portails. Allant dans le même sens, note 7 sur 7.cd, la structure Sirso nationale ne décolère pas. Elle annonce une nouvelle manifestation le 27 novembre 2024 à Kinshasa contre les changements de la Constitution.
Une radio, une fréquence. La radio Maïndéléo sur la 88.8 et la 91.7 MHz. Toujours à votre service. Radio Maïndéléo, la radio du développement.
Nous avons un communiqué dans cette édition en prévision de l'opération imminente de bouclage prévue dans la ville de Bukavu. Les périphéries et territoires avoisinants, nous demandons à tous les usagers de la route de se mettre en ordre avec tous les documents des bords de leurs véhicules sous peine de s'exposer à la rigueur de la loi et autres désagréments inutiles. Tous ceux qui ne sont pas en ordre doivent impérativement passer au bureau de la DPMR pour régulariser leur situation. Nous demandons aussi à l'association des chauffeurs du Congo ASECO et l'ensemble des organisations membres de la société civile du Sud-Kivu de se sensibiliser pour la réussite de cette opération afin d'améliorer et valoriser les conditions des usagers de la route. Merci pour votre esprit de civisme et bonne citoyenneté pour le développement de notre chère province du Sud que vous. Ce message tient lieu d'avertissement à bon attendeur. Salut la direction du cabinet du ministère des Finances signe ses communiqués. Il est 6h44, c'est la fin de cette édition du journal sur Radio Maïdéléo. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Hélène Boudjiriri, c'est mon nom, Anissé Akonkwa sur la mise en onde. Vous allez suivre la même édition dans sa version swahili avec Samuel Abamungu tout de suite. Nous on se retrouve encore à 12h juste pour une nouvelle édition. Au revoir.